Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut Matt, salut Edouard. Comme convenu il y a 15 jours, la deuxième partie du super entretien avec Grégoire Margoton est prête. Elle sort tout juste de l'ordi de montage de Marc. C'est parti donc pour 40 minutes supplémentaires avec l'acolyte préféré de Vicente Lizarazu sur TF1. Il est question de dents, de Thierry Gilardi, des critiques des réseaux sociaux, de l'utilisation de la data et des différences entre le commentaire canal et le commentaire TF1. Bon épisode.
Alternative football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Crois-moi, ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative football.
C'est là où je pensais naïvement que tu avais peut-être aussi une forme de préparation. Tu préparais des punchlines un peu comme un artiste, comme un comique. On avait reçu Paul de Saint-Sernin ici, par exemple. Mais parce qu'en fait, t'es un protagoniste. Alors, t'es pas sur le terrain, t'es pas un protagoniste au même titre que M. Cissé était un protagoniste. Mais ce moment, et ça, je pense que tous les gens qui supportent une équipe particulièrement, moi, quand le PSG marque, je célèbre. Et puis, bien souvent, je suis au stade. Mais quand c'est un but important, je vais constamment le lendemain chercher. Ouais, mais... Comment ils l'ont
raconté ? Parce qu'il te manque un élément pour que ton souvenir soit complet. Ouais. Évidemment qu'il te manque un élément. Et évidemment que je suis plus fier, par exemple, celui-là, vraiment, j'en suis fier, parce que je ne sais pas pourquoi, mais il ne reste pas forcément plus dans l'histoire, mais la tête de Thiago Silva à Chelsea, ouais, en prolongue, ce jour-là, il y a tout. Ouais. Celui-là, il y a tout. Où il y a un but aussi en finale de Ligue des Champions du Barça, où le but, c'est trois passes, et Neymar qui termine, époque Neymar, Suarez, Messi. Mon commentaire, là aussi, il est pam, il n'y a pas un mot au-dessus qui dérange l'autre, c'est dans le rythme du jeu. Là, quand tu es dans ce rythme-là, quand tu es dans cette, je sais pas, cette osmose avec ce qui se passe sur le terrain, là, c'est bon. Et quand tu anticipes, c'est le moment pour Paris, bam, il met son but, tu continues à le dire, et puis derrière, l'explication du but, les mots qui viennent, ils sont sympas, tu te répètes pas, tu t'achoppes pas, tu bafouilles pas, là, c'est bon. Et en même temps, tu t'es levé, et en même temps, tu hurles.
Mais t'es entraîné par le match que tu vois.
Exactement. Tu peux pas préparer.
T'es entraîné par le match.
Pour revenir à Thierry Gilardi, qui a influencé beaucoup de gens, qui a été influencé par moi, il m'a influencé, j'ai travaillé 15 ans à côté de lui. Donc j'ai pas forcément repris ses tics, mais j'ai repris sa façon de travailler, son sérieux, ça c'est sûr. Thierry, il disait, le commentaire, c'est de l'improvisation millimétrée. Ça se contredit évidemment, comme c'est antinomique au complet. Improviser et millimétrer, c'est le contraire. Et pourtant, c'est ça. C'est-à-dire que c'est comme un joueur. Tu fais tes gammes, tu répètes, tu fais des frappes, tu fais des tu travailles avec tes potes, tu fais du placement tactique, etc. Et arrive le match, servir, mais il n'y a pas que ça qui va te servir. Tu vas faire quelque chose à toi et improviser. Donc lui, il ne fait pas de punchline avant, il ne sait pas qu'il va rentrer et frapper et enrouler le carnet opposé. Il se dit que c'est là, à ce moment-là, il y pense, mais il ne l'a pas préparé en disant « ce soir, je vais faire ça ». Non. Tu peux pas faire ça.
Attends, je coupe parce que c'était très intéressant. Tout à l'heure, tu as dit avec Bichente, vous avez commencé cette Coupe du Monde, l'autre Coupe du Monde, vous n'étiez pas bien physiquement, vous n'étiez pas dedans.
Ouais.
Justement, quand vous n'êtes pas dedans, quand tu n'es pas dedans, qui te met dedans ? Surtout si le match,
c'est
pas bon.
Eh ben, c'est le temps, c'est nous, c'est le boulot. Moi, j'étais arrivé là au Qatar, je sortais d'un montage, d'un doc qui m'avait pris mes soirées et mes journées, et j'ai pas eu le temps vraiment de préparer. Je savais que j'avais 20 matchs à commenter, je connaissais les 8 ou 9 premiers, je connaissais mon programme, il y en avait un tous les jours. Et j'avais préparé les 2-3 premiers, pas plus. Et je suis arrivé, j'étais pas bien fatigué, les matchs sont pas géniaux, tu commandes pas un Qatar-Équateur comme tu commandes une demi-finale entre la France et l'Allemagne. Donc ça demande beaucoup plus de travail en même temps. J'avais à côté de moi un Vicente, ça enchantait pas forcément de se retrouver à commenter Qatar-Équateur. Voilà, lui, il a besoin d'un peu de background, il a besoin que la compétition ait une semaine, 15 jours, d'avoir vu des matchs pour être dedans et pour être meilleur et pour se lâcher. Mais quand même, on doit les commenter, ces matchs. Et même s'ils ne sont pas hyper passionnants, on doit le commenter. Donc, c'est un peu une bataille avec soi-même.
Plus le match qui n'est pas top.
Non. Bah, tu Donc, tu enchaînes, tu prépares le suivant.
Tu fais comme un joueur de foot.
Exactement.
Bah, tu fais ton match, tu essaies de le faire le carré, tu gagnes 1-0 et tu...
Non,
1-0,
mais bam. Tu t'accroches à ce qui te fait plaisir aussi. Tu te dis, putain, l'Équateur, je m'y attendais pas, ce joueur sympa, machin sympa, j'avais voulu que finalement... lui joue à Brighton, il est pas mal finalement.
Oui, ouais. Tu te rattaches à quelque chose.
Tu te rattaches à ce que t'as vu et tu cherches
tu
à...
Tu fais preuve de résilience.
Voilà.
Beaucoup de
résilience. Non, mais t'es en train de me dire que mon métier est compliqué. C'est pas un métier...
Non,
jamais, je m'embête. Jamais je regrette d'être là-haut avec un casque
non,
autour de la tête.
Non, je dis ça, c'est comme quand on est footballeur.
Oui, oui, oui.
Bah, parfois, non, ouais. Tu joues, tu vas au Mans ou tu vas à Dijon ou au Consort. Bah,
mais c'est la mise au vert qui te fait chier une fois que t'es sur le terrain.
Non, mais je le dis. Ouais, non. Il y a des fois où non, je suis désolé.
Il est trop honnête, Edouard Cissé, pour un pop.
Mais non, mais il a parlé avec beaucoup d'honnêteté, ouais. Greg. Ouais. Tu vois, tu as beau faire un métier que tu aimes. Il y a des fois où tu n'es pas dedans, il n'y a rien qui t'attire.
On est bien tous d'accord
mais
qu'on préfère commenter un match à élimination directe en Coupe du Monde, qu'on préfère la Ligue des Champions quand t'arrives le mois de février ou le mois de mars, parce que c'est là que c'est les grands matchs, c'est là que c'est le très très haut niveau.
Moi, j'essaie d'être honnête avec tout le monde. Et c'est pas parce que tu fais un métier de passion qui est cool que c'est tout le temps facile de le faire. Mais t'es tout le temps heureux et tout le temps.
Ah bah,
non,
bien
mais
sûr.
Parfois, néanmoins, il faut quand même le faire de manière carrée. Donc, c'est-à-dire que j'explique au gars, tu fais 1-0. 1-0, c'était pas ton meilleur match, c'était pas ton pire, tu passes à autre chose.
C'est ça
tu
l'AFP.
Tu prends 5 dans l'équipe. Ah oh, ouais, ce match-là, t'as pas été bon. Mais on a gagné, j'ai fait le boulot, on verra le match après. Voilà,
écoute, tu me fais une passe D pour la transition sur la prochaine question qui m'est venue, c'est justement la passion. Parce qu'à l'inverse, quand c'est pas Qatar-Équateur, mais que tu commentes Liverpool.
Ouais.
Il y a forcément, et encore une fois, peut-être que c'est moi le fan de foot qui me dit, moi si je commentais le PSG, je pourrais pas être objectif, c'est impossible. Comment on fait ça? Parce que commenter une équipe avec laquelle tu es engagé émotionnellement, c'est forcément difficile. Real Madrid, Liverpool,
eh ben, tu sais comment j'ai résolu l'affaire. Et c'était un samedi soir,
ouais.
Finale de Ligue des Champions au Parc des Princes. À 14h, j'avais 42 de fièvre et j'avais le Covid pour la première fois. Donc j'ai fait cette finale à 42 tiers avec le Covid.
D'accord.
Donc j'étais au fond du trou. Et c'était bien parce qu'on a dû faire 45 minutes d'avant-match parce que ça a été repoussé. Donc j'ai un souvenir absolument horrible. Non, je rigole, c'est parenthèse. Non, j'ai jamais eu de soucis pour ça.
D'accord.
Je suis lyonnais. Je me chambre avec mon pote David Berger de Canal qui est stéphanois depuis 25 ans. C'est mon meilleur pote. Sur les derbies, je commentais Lyon-Saint-Etienne. Saint-Etienne gagnait 3-0. J'étais aussi enthousiaste que si c'était Lyon. Quand je mets un casque, surtout en Ligue 1, et j'ai été formé à ça toute ma journée. En Ligue 1, j'avais pas d'équipe. Et même si j'étais lyonnais, j'arrivais à mettre tous mes sentiments de côté. Tout. En revanche, dès qu'arrive la Ligue des Champions, enfin la Coupe d'Europe, là, naturellement, le club français était derrière, évidemment. Quoi qu'il arrive, qu'il soit marseillais, parisien... Et l'équipe de France, naturellement, t'es derrière. Beaucoup trop, selon certains. Pas assez, selon d'autres. Voilà, chacun met le curseur là où il peut. Mais mon curseur d'équilibre, j'ai eu cette chance depuis le début de l'avoir. À partir du moment où j'étais au stade et que je mettais mon micro, il n'y avait plus aucun souci.
C'est une vraie qualité, ça. Parce que tu vois, je pense que l'un des prérequis pour un journaliste, c'est aussi l'objectivité. Et
mais sinon, tu vas travailler à PSG-TV. Tout va bien. Tu vois, pense que ce qu'attendent des téléspectateurs sur n'importe quel match hors chaîne de club, c'est de l'équilibre. Ouais. C'est de l'équilibre et c'est du respect des deux équipes.
Alors après, Edouard, c'est toi qui viens de me faire une belle passe décisive parce que l'autre question que j'avais envie de te poser dans ce thème-là, c'est ce qu'attend l'audience. Et la raison pour laquelle j'ai envie de te la poser, c'est parce que tu as vécu deux audiences de public très différents. Comment on passe de Canal+, commenter la Ligue 1 sur des gens qui sont abonnés, donc qui, a priori, s'y connaissent, à on s'adresse à tous les Français, en clair. Pour l'équipe de France qui est un
grand public,
un patrimoine national, je trouve le mot. Comment on fait cette transition là?
Il y a les deux dimensions. Il y a la dimension de toi-même et de l'évolution de ton travail. Alors moi, je me suis toujours dit que je commentais à TF1 comme à Canal. 2016, j'arrive à TF1, je me dis, je viens de faire France-Cameroun, c'était mon premier match sur TF1, mais je pense que j'ai évolué. Donc maintenant, après 6 ans, clairement, je sais que j'ai évolué.
C'est quoi, c'est la pédagogie?
Non, même pas. Je saurais pas te dire. Je pense que j'ai évolué par rapport aussi au... j'aime pas ce mot-là, au produit. Le produit TF1, c'est vraiment le produit du match. Il n'y a pas trop d'avant-match, de mi-temps, d'après-match. On n'est pas dans des magazines, on n'est pas dans de l'analyse pointue, des émissions consacrées pour revenir sur les matchs, etc. On est vraiment au moment M. Donc je pense que moins qu'à une époque, je me concentre sur le chiffre, la stat, la data, etc. J'essaie d'en trouver. Si j'en sors, faut vraiment qu'elle ait pour moi un sens immédiat, compréhensible par tous. Donc de ce fait, je suis moins suivi, moins compris par les anciens qui suivaient sur le canal et qui se disent voilà, il a plus la data, etc. L'autre dimension, c'est le jugement des gens. Clairement, t'es à Canal+, tu représentes Canal+, tu es Canal+, donc tu as une image. Ton image est liée à celle de Canal+. Tu es TF1, tu deviens TF1. Et ça, je le savais. C'est-à-dire que Thierry Gilardi à Canal+ était le journaliste, le commentateur le plus respecté, le plus aimé de France. Il passe à TF1, tout le monde a oublié, hein, évidemment, paix à son âme. Mais pendant les 2-3 années où il commente à TF1, il en prend plein la gueule. Ah, parce qu'il est sur TF1. Parce qu'il est sur TF1. C'est pourtant le même homme, hein, il commente effectivement pas avec le même consultant, mais c'est pourtant le même homme, et il met les mêmes ingrédients dans son travail et le même amour de son métier. Et je savais, heureusement, que moi j'arrive à TF1 à 46 ans, et pas à 25, je savais que j'allais en prendre plein la gueule là-dessus. D'accord. Et je l'entends là aujourd'hui, je le vois de plus en plus. Et ça me fait sourire. Alors des fois, je regarde, je lis les réseaux sociaux, j'essaie de dire « Ah, peut-être qu'on me dit quelque chose et je devrais l'entendre. Ouais. » Mais Margoton Prime, c'est Margoton Canal. Margoton, oh, il est éclaté depuis qu'il est à TF1. Ça arrive.
Mais ça, c'est qui? C'est
les auditeurs? Tu regardes les réseaux?
Bien sûr que je regarde. Ouais. Bien sûr, évidemment, je regarde les critiques. Alors, j'ai aussi appris avec le temps que Twitter, c'est 90% de critiques. Et puis tout d'un coup, je me suis mis sur Insta. Bon, j'y vais très rarement. Mais alors là, c'est que de l'amour. C'est super marrant. Ouais. C'est « Ah, je vous adore, machin. Vous avez fait quoi comme étude? Expliquez-moi. » Donc, je fais un peu le...
J'équilibre tout ça. Beaucoup d'Insta et très...
Mais
et tout
je sais que j'ai évolué. Ce que j'essaie de garder, et ça changera pas, c'est que j'adore faire ça. J'adore faire mon métier, j'adore prendre un avion ou un train ou une voiture pour aller dans un stade de foot, raconter une histoire, et que ça me, jusqu'à mon dernier souffle, je pense que j'adorerais ça. Et je pense que ça s'entend et que tu peux pas mentir là-dessus. Donc ça, pour ça, j'ai pas changé. Pour le reste, sans doute, évidemment. Et avec l'âge, on devient ou plus con ou moins con, mais j'ai pris de l'âge.
Je parlais de patrimoine national en évoquant l'équipe de France. De ce fait, est-ce que et là, je vais élargir un peu au sport. Est-ce que le foot, c'est plus compliqué à commenter que les autres sports ou plus simple? Et la raison pour laquelle je pose cette question, c'est parce que c'est un sport qui est plus exposé, potentiellement que plus de monde connaît. Donc, est-ce que ça le rend plus difficile à commenter ou plus facile?
Tu as donné une partie de la réponse dans ta question. Là encore, il y a peut-être deux dimensions. Oui, c'est plus compliqué parce qu'il y a plus d'enjeux. Enfin, plus d'enjeux et plus de jugements. C'est-à-dire que... quand je commande du hand pour 5 millions de personnes, dans les 5 millions de personnes, il y a 20 000 sélectionneurs. Quand tu commandes du foot pour 25 millions de personnes, il y a 25 000 sélectionneurs. Et donc 25 000 personnes qui te jugent comme un membre de l'équipe de France et qui donnent leur avis sur toi. Mmh. Voilà. Alors autant fais ce que tu veux, ou ça te... Ouais. C'est ton but dans la vie d'être très connu ou d'être sur les réseaux sociaux, qu'on parle de toi, etc. Ce qui n'est pas vraiment mon cas. C'est le seul changement. Pour le reste, c'est exactement la même chose. Voilà. Je suis autant impacté par un direct qui se passe bien en athlétisme, qui se passe mal en handball que pour le football. Je suis très content sur une finale de me dire ah putain, pour le match important, je pense pas à l'audience du lendemain, mais on a été à la hauteur, ça me procure du bonheur. Il n'empêche que le meilleur souvenir de toute ma vie de commentateur, ça restera la semaine que j'ai passée d'athlétisme dans les tribunes à Pékin pour les JO en athlée. Voilà. Jamais j'aurais vécu, et j'ai vécu un moment de perfection de la première matinée jusqu'à la dernière soirée comme ça. Jamais.
Comment tu juges tes performances? Comment tu dis, voilà, on a été bon, on n'a pas été...
Bah écoute, je pense comme toi quand tu faisais un match de foot. Quand tu es lucide, j'espère l'être, tu sais que le match avait cette dimension-là, ce rythme-là, a eu cette importance pour la suite sur le moment, et que dans ces moments-là où il fallait accompagner avec cette émotion-là, ce choix de mots-là, cette passe d'ess avec ton consultant et le retour du mec sur le terrain, etc., que tu as été dans le... Dans la couleur,
dans
voilà. Que t'as, voilà. Exactement, c'est une question de... T'as une rivière qui passe devant toi, ou t'es resté sur le bord et t'as hop, hop, ou tu plonges dedans et tu nages naturellement. Et de temps en temps, ça te fait cet effet-là. Le but d'Mbappé, jamais j'ai vécu ça. Le but d'Mbappé, le deuxième but, pas le pénalty. Le pénalty, tu commences comme tout le monde à « oh, oh, il se passe un truc ». Là, à partir de ce moment-là, tu te dis « ok, je vais garder un ton ». Enfin, c'est pas conscient, mais naturellement, tu gardes une... Parce qu'il peut se passer un truc. 3 minutes après, il marque le deuxième. Je raconte ça, mais je me suis levé et une partie de moi a quitté mon corps. S'est levé un peu plus haut. Mon corps, je ne sais pas ce que c'est, si c'est l'âme ou si c'est autre chose, est monté et je suis revenu dans mon corps 20 secondes après. Mais pendant 20 secondes, il n'y a plus personne. Ouais. J'essaie de garder, je me dis, je suis en train de dire quoi, c'est quoi les mots, il se passe quoi, regarde là, quelle tête il fait, ils sont comment les autres à côté, tu regardes les supporters français, tu regardes les... Mais pendant 20 secondes, je suis plus dans mon corps, c'est exceptionnel, jamais j'avais vécu ça, jamais.
Ça c'est des moments où t'as plus de spectateur neutre, je prends ma main à couper, que tu vois, t'as un croate dans le stade, il explose avec tout le monde.
Avant je l'aurais mal vécu parce que j'étais vraiment l'AFP. Là maintenant, TF1 m'a aussi un peu apporté ça. Je suis capable de me lâcher quand même pendant un temps avant de redescendre, hein, reprendre. Ouais. Mais avant, j'aurais eu du mal à me lâcher. Je l'aurais fait un peu comme un robot il y a encore 20 ans.
Ce but-là, il est magique parce que même si tu es, si t'aimes le sport, même quelle que soit ta nationalité, t'aimes le sport ou t'as fait un peu de sport, tu sais que ce qui se passe là,
c'est universel.
C'est énorme. Ouais. Après, tu te rends compte que ce qu'il est en train de faire là, l'extraterrestre. C'est quand même assez... c'est énorme. Mais l'émotion, même moi, pourtant, pendant 70 minutes, j'étais avec ma famille et tout ça posé. Bon. De 1, ouais, mais bon, quand même, ils reviennent de loin, quoi. C'est pas mal, ils sauvent l'honneur. Bam. De 2, ouais, mais c'est un truc de fou. Ouais. Et ils te prennent, mais c'est magnifique. C'est... Ouais, donc je peux comprendre.
Je ne rencontre que des gens beaucoup plus que 2018. C'est marrant, vrai, et pourtant, c'était une victoire. Dans la rue, qui me disent « je regardais pas le foot, j'ai adoré », ou qui te disent « merci », alors que les gens qui disent « merci », merci quoi ?»« Merci pourquoi ?» Mais ça fait rien, encore une fois, tu fais partie du truc.
Le prendre.
Ouais. C'est pas ta tête, tu fais partie du truc. Et ouais, le sport est commenté. Il a toujours été commenté, je pense qu'il sera toujours commenté.
Ouais, tu penses ça?
Ouais.
Comment tu vois un petit peu la profession
J'essaie de voir aussi à l'étranger comment ils font. On est bien différents.
ChatGPT.
C'est fabuleux.
ChatGPT, là.
Ma prochaine question, c'était est-ce que tu benchmarks, même quand tu es
à l'étranger, ils évoluent peu.
Les autres sports.
Ils évoluent peu. Et c'est marrant la place du commentateur sportif. Vous qui êtes souvent dans votre podcast sur l'écosystème, etc. Ouais. La place du commentateur de sport dans les différents pays européens, déjà, je ne parle pas d'Amérique du Sud, elle est hallucinante. C'est-à-dire que l'équivalent de Margoton en Allemagne, c'est une putain de star, payée, je ne vous explique même pas, aucun rapport avec ce qui se passe en France. Le statut de ce personnage-là, de la chaîne principale allemande pour la Mannschaft, en Angleterre, n'en parlons pas, ils sont très, très, très bien payés, les Anglais.
C'est des superstars.
Pour en revenir à ce que tu disais sur...
Mais ils ne commandent pas de la même manière que nous. Ça, c'est, voilà. Nous, on est entre deux. On est vraiment au cœur de l'Europe pour ça. Les Allemands, c'est un mec souvent, pas consultant, c'est un mec. C'est le consultant, vrai. Il arrive à la mi-temps. Ouais. Et un mec qui dit un mot par minute des fois.
Ouais.
C'est une seule voix.
À l'inverse, en Angleterre, je pense que tu vas en parler.
Ouais. Bah, à l'inverse, en Angleterre, il y a les deux. Il y a aussi un consultant.
Mais t'as beaucoup de place au consultant en Angleterre.
Ouais.
Tu vois, moi, je reviens souvent, on parlait de moments, mais alors c'était de la radio, c'est encore un peu différent, mais un des commentaires qui m'a marqué, même si le match n'est pas important, c'est le commentaire de Stan Collymore sur le but de Zlatan Ibrahimovic quand il met la retournée contre l'Angleterre, où il part dans une envolée lyrique.
Ouais.
Et le mec, il a la formulation, la tessiture, le rythme du commentateur, alors que le mec, c'est le consultant. Et t'as beaucoup ça. La place, compris des Gary Neville ou Jamie Carragher.
Ils sont plus dans l'analyse, pas forcément pendant le match. Ils sont là, à mi-temps, sur le plateau, etc. Non, mais c'est vrai. Et c'est vrai que les commentateurs anglais, journalistes, sont... Je suis vraiment dans cette lignée-là, moi. Ouais. J'essaie. Et le mot est important. Et c'est... Des fois, moi, je m'en veux, me dire, ah, tu t'es fait plaisir comme un con, t'as fait 10 secondes de trop. T'aurais pu te taire il y a 10 secondes et laisser le ralenti, etc. Ça, je m'en veux aussi des fois. J'aime bien laisser du silence.
Ouais.
J'aime bien laisser l'entrée des équipes. J'ai toujours fait ça. Ça aussi, c'est Canal.
Ouais.
Des équipes qui sortent dans un beau stade avec un mec, l'ingénieur du son qui travaille bien, la musique. Ouais. Mais tais-toi. Taisez-vous. La recherche du silence. Et ça, je l'oublie un peu. Peu à TF1, peut-être. C'est les choses, des réflexes que. Voilà, des fois, je me pose et il faut revenir aux fondamentaux.
Alternative football. Alternative football.
raison pour laquelle je parlais d'Angleterre, c'est qu'on a un phénomène là-bas qui est aussi dû à la personne, hein, qui n'est pas uniquement, je pense, culturel, qu'on n'a pas encore vécu en France. C'est le consultant ancien joueur qui a transitionné vers journaliste et qui le fait très bien. C'est Gary Lineker, qui aujourd'hui est considéré comme un journaliste, qui présente, recommande pas, mais il présente.
C'est un présentateur, c'est pas pareil.
Est-ce que je pose la question au consultant.
Thierry Henry le
sait
un petit peu.
Ouais.
David Ginola l'a été. On a tenté. Ça a fonctionné plus ou moins bien. Ouais. Pourquoi pas, tant que ça peut ouvrir et un peu décloisonner tout ce qu'on...
C'est quelque chose que tu vois d'un bon oeil, toi, de pouvoir...
Évidemment, tant qu'on peut décloisonner tout ça, décloisonnons le sport et arrêtons de dire journaliste sportif, mais journaliste de sport. Tu vois, il y a les... L'image du journaliste sportif, elle n'a pas beaucoup changé aussi. Quand on parlait peu d'évolution de la culture française, moi, je suis vu, les journalistes de sport sont vus par les journalistes d'info gênés, par les rédactions, toujours à peu près de la même manière qu'à 40 ans. On est un peu moins alcoolo, peut-être. Mais autrement, on est vu un peu de la même manière.
Vous n'avez plus de pantalon velours et vous n'avez plus de gitano.
C'est un peu présent. Alors qu'ils ne savent pas que la plupart du temps, en tout cas moi, dans mon éducation canal, on était capable de tout faire.
Et puis,
il ne faut pas lutter contre les préjugés. C'est les a priori, c'est le footballeur, il est belge, du sport.
Tu le juges en essayant de faire toi-même ton métier du mieux possible. Avec,
c'est tout. Le prof de sport, il est toujours en survette.
Ouais, non, mais c'est ce qu'on disait. Mais d'autant que là, tu vois, c'est là où je... Enfin, tu as quand même, pour pouvoir commenter de manière pertinente, tu as quand même une culture générale assez large. C'est-à-dire que tu commentes à des moments où il se passe d'autres choses dans le monde, tu commentes à des époques qui...
Avec le sport, j'ai commenté les émeutes, j'ai commenté l'effondrement d'un mur au stade à José Alvalade un jour de 95 où il y a eu 25 morts, et le match a commencé une heure et demie après, etc. etc. Ouais. Donc tu es amené à faire autre chose avec le sport, tu es amené à interviewer des gens qui ne sont pas qui font des hommes ou des femmes politiques, etc. etc. Que tu es en Afrique du Sud en 96 et que tu vois arriver Mandela, tu dis pas arriver Nelson Mandela. Non, l'apartheid est tombé juste 3 ans avant et le type est président depuis 2 ans et il y a un truc un peu spécial qui se passe quand même, etc. etc. Moi, le sport m'a appris la vie. J'ai voulu voyager parce que j'ai voyagé grâce au sport quand j'étais gosse. Je connaissais Kayserispor ou Kaiserslautern, des points improbables en géographie grâce au foot, grâce au sport. Et ça a été une culture de départ très importante, le sport. Voilà.
Non, mais ça, je pense que autour de cette table, on a pleine conscience et on est.
Et les journalistes de sport sont capables d'être lâchés sur une soirée électorale et de faire un plateau tout aussi pertinant et efficace qu'un journaliste politique.
Ouais. L'inverse,
je suis un peu moins sûr.
Mais d'ailleurs, t'as de plus en plus de journalistes qui font cette transition-là et parce que aussi t'as des chaînes de sport qui ont des antennes d'infos. Mm-hmm. Est-ce que on s'était posé la question avec Edouard à l'occasion d'un épisode s'il y avait une formation à la française des footballeurs. Est-ce que, une fois qu'on l'a dit tout ça, est-ce que tu penses qu'il y a un commentaire à la française ? Est-ce qu'on a parlé un peu de l'Allemagne est-ce que tu saurais ressortir un trait à travers tous les commentateurs français ?
Il y a un commentaire à la française, sans doute, oui, cet équilibre donc, avec le consultant, un équilibre. Il n'y en a pas un qui prend le dessus sur l'autre, a priori, la plupart du temps. On est moins dans l'acting que les Sud-Américains ou les Espagnols. On est un peu plus quand même dans le descriptif. On parle plus que les Allemands ou que les Anglo-Saxons. On est un peu plus proche des Anglais. Et j'ai pas encore vu trop de dérives de journalistes qui se pensent plus importants que l'histoire qu'ils racontent. Ça peut arriver.
En général, le
journaliste de commentateur en France
sait garder une place,
sait garder sa place. Parce que je pense être sa place. Hein. Chacun prend. Alors, on pourrait évoluer là-dessus. Hein. On pourrait dire que tiens, le journaliste est tout d'un coup très important et ce qu'il raconte est tout aussi important que le geste qu'il est en train de raconter.
D'accord. Okay.
Je m'en fiche. C'est moi qui parle. Je fais un show. Je suis un acteur. Oui, journaliste, mais je suis un acteur. Et les gens attendent de moi d'être un acteur.
Moi, je crois pas.
Certains consultants.
Parfois, j'ai trouvé qu'à un moment donné, quand j'écoutais les matchs, quand je regardais les matchs, je trouvais que il y avait une petite dérive.
Ah ouais ?
Ouais.
Mais récemment, c'est-à-dire quelque chose de nouveau ?
Il y a à peu près 2-3 saisons.
D'accord.
Voilà.
Parce que on se dit aussi dans la rédaction qu'il y a besoin de types différents, de couleurs différentes aussi, que c'est bien qu'il y ait des puis que ça fait réagir aussi peut-être un peu aussi sur les réseaux sociaux quelqu'un qui est un petit peu moins lisse, un peu moins
pour tout dire
classique.
Ça m'agaçait profondément parce que pour moi un commentateur il doit faire vivre le match Et ses états d'âme, j'en ai rien à fiche. Non, mais sincèrement, je préfère écouter le consultant. Et le consultant, il a son analyse. Il a la légitimité d'avoir été joueur, donc why not? Je ne partage pas nécessairement l'analyse que le consultant fait. Mais le commentateur...
Mais c'est l'équilibre dont tu parlais.
Exact. J'en ai rien à fiche, quoi. Que
lui donne son avis.
Que, ouais. Non, ce n'est pas un idiot. Ou alors, il va sur une chaîne spéciale.
C'est ça.
Et il parle et il se fait vivre comme ça, mais... Franchement.
Typiquement, t'es un passeur d'infos et d'émotions, c'est tout, t'es un passeur. Moi, je me vois comme chef de gare avec un mec à mettre en valeur à droite, à gauche,
oui,
et des types qui, ou des femmes qui poussent un ballon et être capable de les accompagner avec, avec un vocabulaire, avec une musique dans la voix.
Musicalité.
Qui, alors après, ça se travaille ou pas, moi, j'ai pas travaillé ça, jamais. T'as la chance de l'avoir ou pas, sans doute.
Une question pour le futur, est-ce que tu penses sincèrement qu'il y aura toujours, dans les prochaines années, un commentateur, un consultant ? Ou alors, est-ce que tu y auras peut-être un commentateur avec une intelligence artificielle ? Je ne sais pas.
Ça va permettre de poser ma question sur la data. Enfin,
mais tu vois,
je ne sais pas dans à quel niveau de développement on est de l'intelligence artificielle et de la gestion d'une éventuelle émotion qui surgirait.
Donc
par rapport à un événement, on a tous une émotion différente. Il y a certains que sur un but qui vont tomber à terre et se prendre la tête à deux mains parce que c'est leur équipe qui a été battue, d'autres qui vont sauter parce que leur équipe a... L'intelligence artificielle, je ne suis pas sûr qu'elle soit encore formatée pour gérer tant d'émotions. Donc je pense que c'est quand même l'humain qui va continuer à gérer les émotions d'un spectacle sportif. Ou alors l'intelligence artificielle, elle sera aussi sur le terrain.
Non, je ne le souhaite pas. Non, mais ce que je voulais dire,
qu'on reste profondément dans l'humain. Après, qu'on commande de façon différente, qu'on donne la possibilité technique.
C'est ce que j'allais dire. L'apport de la tech.
L'IA comme un moyen, pas comme un.
De choisir juste
robot,
le. Mais je pense que tu t'aperçois quand les commentateurs t'énervent, tu vas regarder un match, deux matchs, trois matchs sans le commentaire. Et au quatrième. Tu vas rencontrer ton pote et qui te parlera du but. T'as vu le but, il a dit ça. Il va te manquer un truc. Il nous manquera un truc.
Je pense que tu t'accommodes.
Ouais.
Tu t'accommodes.
Ouais, je pense que ça fait partie de l'équilibre du spectacle. Ouais.
Et alors, question que je suis obligé de te poser de par mes chères fonctions, les datas.
Oui.
Tout ça. Et pas, d'ailleurs, j'ai pas envie de limiter aux datas parce que tu as toute une. On parlait de Twitter. Tu as aussi quelque chose de nouveau, c'est la mouvance technico-tactique. De plus en plus d'analystes tactiques qui proposent leur propre contenu parce qu'ils ont aujourd'hui les canaux qui permettent de le faire. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Est-ce que tu t'en sers et dans quelle mesure ? C'est vrai qu'on a une toute petite histoire commune avec la Data Room que tu as présentée à l'occasion de la première saison.
Cultissime.
Qu'on avait lancée à l'époque avec Monsieur de Courcelles et avec Cyril Linette. Donc voilà, une question un peu large sur les data, la tactique. À quel point tu t'en sers ? Quel est ton regard sur ce type d'outil ?
Je m'en sers à un point qui évolue, qui varie. Ça dépend des compètes, ça dépend des moments. En revanche, je regarde. J'ai toujours regardé et je continuerai à regarder. Je regardais déjà quand il s'agissait de data sur du basket avant le foot.
Ouais.
Moi, j'ai grandi dans d'autres sports aussi.
Oui, si tu parlais du
data,
basket,
d'athlète, c'est comme la préparation physique. La préparation physique, j'en discutais avec les gens en athlétisme parce que ça me servait aussi pour aborder la préparation physique des footeux. Donc, la data... Elle est là en permanence. J'essaye de voir comment elle s'inscrit et comment elle rentre dans le paysage, des fois de manière définitive, chez les confrères, sur des sites, chez des journaux. Qu'est-ce qui est retenu maintenant sur les feuilles de stats, qu'est-ce qui est important.
Ouais.
Et puis ensuite, les analystes aussi, certains j'écoute, je regarde. Il y en a certains qui m'intéressent et parce que je vais les écouter de façon très précise sur une équipe, il a décortiqué ça, ils font quoi au moment de la perte du ballon, sur une équipe que je vais commenter, je vais aller regarder ce qu'il me raconte, je prendrai ce qu'il faut ou pas prendre, mais c'est juste pour ma culture. Après la data, clairement moi je regarde les stats, je regarde les stats individuels, les expected goals, il va falloir qu'on m'explique. Je me suis fait démonter sur Twitter parce que je parlais d'expected goal de façon un peu...
Mais c'est assez clivant. Je regarde le SoFoot devant moi. D'ailleurs, merci à mes amis de SoFoot d'avoir mis en titre de l'article, de l'interview de la Gazette, les expected goals. Comment ils disent ça ?
J'ai vu, hein, en plus. Hein.
Les expected goals, c'est n'importe quoi, c'est ça ?
Moi, je dirais pas que c'est n'importe quoi, mais je trouve ça, pour l'instant...
Abstrait.
Qu'est-ce qu'un expected goal ? Déjà, rien qu'une passe décisive...
Qu'est-ce que ça apporte ?
C'est c'est une dimension un peu précise. Moi, j'aime bien dernière passe avant tir. Ouais. J'aime bien passe dans les 30 derniers mètres, passe qui casse une ligne, combien de mètres gagnés éventuellement sur une saison. Voilà, ça, c'est les choses qui me parlent. Ouais. Combien de temps une équipe en moyenne met pour récupérer le ballon. Ça, c'est des choses très hyper précises qui me parlent. Voilà.
Ouais. D'autres, qui parle à l'audience de manière générale, et c'est très intéressant ce que tu dis sur les expected goals, et c'est aussi ce que j'ai trouvé intéressant dans l'approche. Il y a deux choses récemment qui m'ont interpellé sur les expected goals, c'est bien entendu Walid Regragui qui en a parlé en conférence de presse, qui les critiquait pas d'ailleurs, j'y reviendrai dans un épisode, et j'ai lu l'interview d'Alex Lacazette, c'est que c'est des choses qui sont à la base demandées par les clubs. Et qui sont faits pour l'analyse, aussi pour le recrutement. Mais là où nous, les fournisseurs de data, on a un rôle, c'est l'éducation. C'est aider ceux qui vont ensuite l'utiliser dans un contexte de médias, de pouvoir faire de la pédagogie autour de ça. Et c'est quand même relativement précis comme métrique. Mmh. Et ça, si tu veux, et après je finis la parenthèse Opta, ça, j'estime que c'est notre responsabilité. Et donc, on essaie de passer le maximum de temps avec les rédactions pour essayer de former un petit peu les gens à ça. Mais là où je peux rejoindre beaucoup de gens, c'est que parler d'expected goals dans l'absolu pour juger de la qualité d'un joueur ou d'un match, ça n'a aucun sens. Mais comme isoler la data, quelle qu'elle soit, pour juger de la qualité d'un joueur ou d'une action, ça n'a aucun sens. Tout rentre dans un contexte, et en particulier, les métriques sont plus complexes. J'ai fini la partie, mais merci beaucoup pour...
Mais si tu vois, je me suis posé la question des expected goals sur la saison passée avec les buts de Benzema, je ne sais pas dans quel match en Ligue des Champions. Et expected goals du Real Madrid, c'était 0,8, et ils en avaient mis 3. Et tu te dis, ok, ça veut dire que donc, tu as... La grille de lecture, d'analyse du geste de ce joueur-là fait que, avec ce centre-là, la position de son corps, il n'était pas concevable, en gros, expected, qu'il pouvait éventuellement marquer un but, ou que c'était très compliqué dans cette situation-là de transformer ce qui n'était pas vraiment une occasion en but. Enfin, j'essaie de comprendre. Tu
t'as la bonne réflexion. Et,
c'est pour toi un but, garçon. C'est son talent qui fait la différence. L'expected talent, je veux bien.
C'est ce qu'il faut retenir. Et que justement, les équipes ou les joueurs qui surperforment par rapport aux expected goals, c'est parce qu'ils sont particulièrement bons. Parce que l'une des dérives des expected goals, et après, promis, j'arrête d'en parler, c'est que. On l'a converti, on l'a pas converti, mais c'est rentré dans, ça a été popularisé dans le langage, notamment par nos collègues anglais qui, eux, sont un pays de chiffres, donc qui ont adopté ça beaucoup plus tôt que nous, en chance de marquer. C'est pas du tout une chance de marquer. En fait, l'expected goal, on regarde tous les tirs qui ont déjà été pris au même endroit, dans les mêmes conditions, avec le même nombre de joueurs entre la passe et entre le but et le ballon, avec la même pression sur le joueur qui tire.
Prends en compte le joueur qui tire.
Ça, c'est une évolution
parce
du modèle.
C'est compliqué.
C'est une évolution du modèle. C'est-à-dire que déjà, il y a autant de modèles d'expected goals qui viennent de fournisseurs de data, et c'est des modèles apprenants. Donc plus il y a de buts marqués, on fera ce que je te propose de faire. On fera un épisode en anglais avec le mec qui a inventé les expected goals, qui s'appelle Sam Green, et puis on en parlera et puis on verra l'épisode.
Il se trouve donc que moi, dans ma position aujourd'hui, j'ai à peu près du 50-50 comme d'habitude. C'est il nous fait chier avec ses data et avec ses stats. Il en met trop, Margoton, à commenter avec ses stats.
Ah, t'as ce reproche?
Ouais, c'est dingue, hein, parce que pourtant il y en a pas beaucoup.
Ah non,
si. Il n'arrête pas de sortir des stats sur les joueurs, etc. Ou alors il n'en a pas assez, il n'a rien compris aux expected goals. Je suis entre les deux.
Et du coup, tu vas faire quoi alors?
Du coup, je continue à regarder. Et de temps en temps, s'il y en a une qui fonctionne, il faut alors là, pour le coup, moi, que j'emmène mon consultant avec moi. Il faut qu'il soit nourri du truc.
Il rebondisse dessus.
Faut que ça lui dise quelque chose. Il faut qu'il ait envie d'en parler et que ce chiffre, ce pourcentage, quoi que ce soit, lui permette de faire une analyse.
Ah, c'est intéressant. Et du coup, toi, ça va changer du coup dans ta façon d'être. Est-ce que tu vas être plus stat, moins stat, ou que tu vas rester comme un paquebot?
Tranquille.
Je sais pas encore. Je sais pas encore. Je regarde ce qui se passe. Je regarde les retransmissions sur des chaînes qui sont uniquement foot, voir ce que eux font, voir comment. Mais on va forcément un peu évoluer. Oui, ça c'est sûr. Avec le temps. Mais déjà la présentation est importante. C'est pas non plus le nombre d'être recouvert. C'est on fait dire quoi, on choisit quelle stat et pourquoi et comment on la met en valeur et comment on lui donne une signification par rapport au match ou au joueur en question. Et ça, c'est important.
Et puis, de toute façon, que ce soit la stat ou il faut être convaincu de ce que tu vas utiliser. C'est-à-dire, je ne crois pas, et d'ailleurs, tu vois, j'ai pas rencontré aucun journaliste à travers tous les pays dans lesquels on travaille qui a utilisé une stat qui considérait comme n'étant pas valide selon sa propre analyse. Et c'est pour ça que moi, je préfère quelqu'un qui dit j'aime pas les psychologues, je les utiliserai pas, parce que c'est un discours qui s'entend. Le danger, c'est de vouloir utiliser une stat. parce qu'au moment donné où elle arrive, elle est propice et qu'elle va, elle va dans le sens de l'histoire. Et d'ailleurs, tu sais pas en prendre possession. Et c'est pour ça que le travail, il est de discuter avec les consultants et les journalistes et de construire cette confiance ensemble. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on essaye de faire.
Vous le faites bien. Franchement, après, je dis pas ça parce que t'es là, mais vous le faites super bien.
Il est con, celui-là. T'as aussi, et je terminerai promis sur ça, j'arrêterai de prêcher pour ma paroisse. T'as aussi la pertinence de ce qu'on amène, nous, c'est-à-dire l'expected goals. La difficulté qu'on s'est créé tout seul, c'est qu'on apportait quelque chose de complètement nouveau. Tu vois, là, on sort deux nouvelles metrics, encore un petit anglicisme histoire de repartir tranquille, qu'on a développé avec nos clients, notamment Sky Sports, à la demande partiellement de Gary Neville, qui est particulièrement intéressé par le sujet. Il voulait des éléments chiffrés sur les notions de pressing et de line breaking passes, donc de passes à travers les lignes. Et ça, on a mis du temps avant de trouver quelque chose de pertinent à donner en chiffres. Et ça, je suis persuadé que c'est ce type de métrique qui... On vient se coller à la terminologie du football déjà. On vient pas amener un terme un peu barbare typique XG, on vient dire, ok, ça fait des années qu'on nous parle de pressing, ça fait des années qu'on nous parle de verticalité et de passes qui cassent les lignes. Comment est-ce qu'on peut vous donner des outils pour le faire? Et c'est pour ça que je pense que l'adoption sur ce type de truc sera plus heureuse que pour les XG.
Et tu vas être de plus en plus précis, tu vas aussi définir ton analyse poste par poste, des postes bien particuliers. Dans ce poste-là, si il fait ça, ce joueur, est-ce que c'est au-dessus, en dessous d'une performance habituelle, etc. Oui, on va aller là-dedans. Après, pendant un match, je pense quand même qu'il en faut un minimum. Et moi, je suis pour surtout qu'il y a déjà un jeu deux fois par mi-temps. Je suis obligé de poser une question, faire un jeu, je sors du foot. Bientôt, en Amérique du Sud, ils ont des pubs pendant le match. C'est-à-dire que le commentaire s'arrête. Ça, c'est exceptionnel. Ça, je l'avais vu en 94, donc ça doit exister 20 fois plus aujourd'hui. Le commentaire s'arrête et tu as une incrustation dans l'écran avec Coca-Cola, la bebida officielle de la Copa América. Et ça revient, ça dure 15 secondes. Et hop, le commentaire reprend pendant le match. Donc, on a de la chance en France, hein, on n'y est pas encore. Hein. Ouais. Bon, des fois, à TF1, on rend l'antenne avant la fin du match. Ouais. Mais on n'y est pas encore. Moi, je préfère... Plus on épure tout ça, plus on reste sur l'image, le son du stade et éventuellement les commentateurs, moi, mieux je me porte. Plus je trouve ça beau, le foot.
Je pense qu'on a un consensus sur ce point-là, parce que quel que soit ce que tu
veux. Et le fait de bosser sur d'autres sports me fait aussi progresser, je pense, aussi sur la stat et la data sur le foot, sur le hand. Typiquement, tu as beaucoup de stats, et en temps réel, en permanence, pendant un match de hand. Tu as sous les yeux un écran où il y a beaucoup plus de stats que sur le football.
Parce que
là aussi, tu apprends à te dire, ok, ce chiffre-là me fait dire que lui, il surperforme ou le contraire. Tu apprends à analyser la performance d'un gardien, d'un ailier, d'un demi-centre. Et voilà, ça aussi, ça te fait progresser, je pense, aussi en football.
Grégoire, merci beaucoup.
Je vous ai bien saoulé. Hein.
Ça
c'est un peu diesel. J'ai un diesel. Toi, tu me lances et paf.
J'ai bu tes paroles.
T'es bourré alors là. tu dois être bien bien bourré. Je suis désolé.
C'était très sincèrement un privilège de t'avoir avec nous. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là.
C'est moi. Merci à vous.
On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, Monsieur Cissé.
Oui, carrément.
Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur. Alors je peux pas en dire qu'une seule. Donc sur Spotify, Deezer, Apple Music, sur toutes les plateformes.
Vous êtes partout.
On essaye d'occuper le terrain comme le faisait brillamment Monsieur Cissé dans ses jeunes années.
La pieuvre.
Le Greg.
Et puis comme d'habitude, et ça on en a beaucoup sur LinkedIn, si vous voulez nous suggérer je dis ça puis à chaque pour l'instant on n'a pas encore les sujets qu'on suggère,
mais on les regarde
si vous souhaitez qu'on s'intéresse à des choses très particulières, si vous avez des idées d'invités, vos suggestions sont les bienvenues. Grégoire, merci mille fois encore une fois.
Merci,
c'était
à vous
fascinant
deux. Merci à vous.
À très vite.
À vite les gars, ciao
ciao.
Alternative football.
Beaucoup en parlent.
On parle de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Comment ils jouent les deux contre les gars?
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative football.
Alternative.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.